France Culture. Les nuits de France Culture.
Comme l'univers est infini, comme l'histoire est éternelle, je suis sur le point de mesurer cette immensité avec mon corps chétif de 5 pieds de haut. Quelle autorité a finalement la philosophie d'Horatio ? La vraie nature de toute la création. Tiens en un mot. Impénétrable. Ce regret au fond de moi, je finis par choisir la mort, déjà debout sur le haut du rocher. Il n'y a aucune inquiétude en mon cœur. Je suis conscient pour la première fois qu'un pessimisme grandissant concorde avec un optimisme grandissant. Voilà les mots qu'a gravé Misao Fujimara, étudiant en philosophie âgé de 16 ans, sur un tronc d'arbre, avant de se jeter dans les chutes de Kegon. Si l'histoire fait alors énormément de bruit au Japon, c'est qu'elle symbolise la difficulté de la jeunesse à trouver du sens dans ce pays en pleine modernisation, coincé entre les âges, où des générations se succéderont en se perdant dans un nihilisme croissant. Pour certains, l'impérialisme militaire qui régit le Japon du début du XXe siècle est le résultat de cette angoisse existentielle, qui ne peut se surmonter que par une autorité excessive et spectaculaire, qui étouffe toute pensée réflexive et donne un sens clair à la vie. Tout donné pour la défense et l'expansion de la patrie. C'est en tout cas ce que suggère l'anthropologue Maurice Pinguet dans ce 5e et dernier épisode de la série « La tradition japonaise et la mort volontaire » de Claude Métra pour les chemins de la connaissance. Une émission diffusée pour la première fois le 30 novembre 1984 sur France Culture.
Il n'y a pas si longtemps, Andreas Bader et les siens se donnaient la mort dans leur prison. C'étaient des rebelles à l'ordre du monde, ils avaient suivi une voie dont un siècle auparavant, Dostoïevski avait éclairé les tourments. Et c'était là, d'une manière ou d'une autre, un acte philosophique, un acte qui oppose à l'absurdité ou au néant du monde réel, du monde contemporain, une vraie réalité qui apparemment ouvre, elle, sur le néant. C'est là l'aboutissement d'une tradition nihiliste depuis un siècle très fondée dans notre société. Alors, cette perspective nihiliste, elle est étrangère sans doute à la tradition japonaise, et pourtant, elle va s'y manifester au moment où l'influence européenne va se faire grande au Japon. Et elle va prendre une représentation tout à fait particulière.
Et oui, l'Occident vit depuis la crise de civilisation du christianisme, l'Occident vit le problème du nihilisme, la question du nihilisme. Et on voit apparaître ça avec acuité au milieu du XIXe siècle, et la question du nihilisme prend une forme romanesque très élaborée avec Dostoïevski, et avec en particulier le suicide de Kirillov dans Les Possédés, dans Les Démons. Et puis, on voit également une élaboration philosophique du problème du nihilisme dans la pensée de Nietzsche, puisque la volonté de Nietzsche, s'il existe une dernière philosophie de Nietzsche, c'est de diagnostiquer le nihilisme comme la maladie mortelle de notre civilisation et de porter remède, si possible, au nihilisme, en introduisant des thèmes philosophiques tels que la volonté de puissance, l'éternel retour. Il s'agit donc de diagnostiquer et de combattre le nihilisme. C'est ce que Nietzsche a voulu faire. Alors, toute cette problématique philosophique du nihilisme en Europe, est évidemment lié à la crise du christianisme et au thème annoncé par Nietzsche dans la formule « Dieu est mort ». Et le Japon, en principe, n'aurait pas eu à connaître cette crise de civilisation, puisque le Japon n'avait jamais connu l'idée d'un Dieu unique, souverain, éternel, absolu, tel qu'il existe dans la pensée chrétienne.
On pourrait dire que d'une certaine manière, Dieu au Japon était mort depuis toujours.
Oui, Dieu n'avait jamais existé et la mort de Dieu aurait pu rester un thème tout à fait étranger à la pensée japonaise, à la civilisation japonaise. Et pourtant, une crise de civilisation très profonde s'est développée au Japon. Et cette crise de civilisation est due, je crois, à deux faits différents, mais ces deux faits sont quand même liés. Premièrement, il y a le danger occidental, la pression occidentale. Le Japon se trouve, à partir du milieu du XIXe siècle, soumis à la menace des Occidentaux. Donc là, il y a une crise de civilisation qui aboutit à la destruction de la civilisation d'Edo et à la naissance très difficile, très ardue du Japon moderne. Et puis, il y a, à côté de ça, l'influence idéologique de l'Occident qui importe à la fois et en même temps le christianisme et le dépassement du christianisme. Le christianisme et la problématique du nihilisme. Donc, les Japonais, les écrivains, surtout les étudiants, les intellectuels japonais de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, les Japonais des couches les plus occidentalisées, les plus modernisées de la société, ont connu à la fois l'idée d'un Dieu chrétien et la question de se demander s'il était oui ou non mort.
Et le Dieu était à la fois présent
Le Dieu était à la fois présent et absent. Mmh. Ce Dieu était pour eux une possibilité de vie, une possibilité de pensée qui leur était apportée, mais qui en même temps leur était dérobée. Donc, ils se sont posés avec acuité les mêmes questions que pouvaient se poser les écrivains ou les philosophes d'Occident. Et on voit apparaître à ce moment-là, dans cette couche d'intellectuels, d'écrivains, d'enseignants, d'étudiants, on voit apparaître des formes de tourment, des formes de désespoir et des formes de suicide qui sont tout à fait semblables au suicide nihiliste que Dostoïevski, 30 ou 40 ans auparavant, avait mis en scène. Et on voit, par exemple, en 1903, on voit un jeune lycéen de 18 ans qui se jette dans une cascade au nord de Tokyo, à Nikkō, qui se jette dans une cascade et qui laisse graver sur le tronc d'un arbre son dernier message. « Je me tue » parce que je ne peux pas comprendre le sens de cette vie. Et il se jette dans la cascade. Donc c'est vraiment le suicide d'angoisse nihiliste. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre un terme à cette vie qui n'a pas de sens? Alors, toutes ces difficultés, qui vont parfois jusqu'au désarroi, jusqu'au désespoir, elles sont liées à la modernisation du Japon. Elles sont liées à l'extraordinaire mutation économique, sociale, politique, idéologique, qui a donné naissance au Japon moderne. Il y a eu à ce moment-là, pendant plusieurs décennies, il y a eu une véritable angoisse qui s'est développée dans la société japonaise. Et ce qui est tragique, c'est que cette angoisse a été surmontée par l'impérialisme. C'est autour de l'empereur et autour de l'impérialisme militaire que le Japon a cherché à surmonter l'inquiétude que lui donnait sa propre transformation.
C'est-à-dire d'organiser une hiérarchie temporelle qui soit en même temps une hiérarchie spirituelle.
Oui, et de commencer une expansion militaire, de trouver dans l'action militaire, dans l'action impérialiste, une raison de vivre, une raison d'être. Donc, l'affirmation de la volonté de puissance du Japon sous la forme de l'impérialisme militaire. Au fond, les intellectuels sont restés marginaux par rapport à ce grand mouvement de l'impérialisme japonais qui s'est développé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et cet impérialisme japonais, ça a été au fond la réponse que la volonté de puissance d'un peuple a donnée à ses propres inquiétudes, aux inquiétudes liées à sa transformation, à sa modernisation, à sa peur de l'Occident. Alors, il a fallu dépasser cette peur de l'Occident, il a fallu dépasser ces tourments de la naissance d'une modernité, et on a dépassé tout ça dans la direction de l'impérialisme d'expansion. L'impérialisme d'expansion qui a abouti à la catastrophe de 1945. Si bien qu'au moment de la catastrophe, le nihilisme a été en somme redoublé. On s'est rendu compte que la solution apportée par l'impérialisme était une fausse solution et qu'on ne pouvait pas donner un sens à la vie dans la recherche de l'expansion militaire, dans la recherche d'une société conquérante. Alors à ce moment-là, il y a eu le moment le plus profond du nihilisme, 1945, 46, 47, 48. Ça a été vraiment la nuit du nihilisme absolu pour les Japonais.
Et alors par rapport à ce nihilisme, que représente un romancier comme Mishima ? Parce qu'il est à la fois lié au nihilisme et en même temps obsédé par les dangers, par les tourments que provoque le nihilisme.
Et oui, je crois en effet que Mishima a vécu profondément tout ce drame du Japon moderne. Mishima a été très marqué par les valeurs martiales, évidemment, par l'impérialisme d'expansion, par le culte de l'empereur, qui a culminé avec la guerre. Et Mishima a assisté, encore très jeune, 18, 19, 20 ans, puisque Mishima a eu 20 ans en 1945, Mishima a assisté à cet expansionnisme conduisant à l'abîme. Et toute sa sensibilité a été évidemment marquée par cette expérience de la guerre, par cette expérience de la catastrophe. Alors, en un premier temps, à partir de 1945, 46, 47, Mishima a essayé de vivre, de survivre à la catastrophe, bien sûr. Il était jeune, il avait du talent, bon, il a commencé son œuvre, il a eu du succès, et à ce moment-là, ce qu'il affirme, c'est la volonté de vivre. Une volonté de santé, une volonté de vie, une volonté d'équilibre, qui a comme modèle la civilisation grecque et Nietzsche. Et puis, ce qui s'est produit dans son psychisme, dans sa personnalité, à partir de 1960, c'est le retour de tous les thèmes militaristes et impérialistes placés au service de son sadomasochisme personnel. Et c'est ce lien de son sadomasochisme personnel et de cette thématique politique de l'impérialisme catastrophique qui l'a conduit à son suicide, à son sacrifice, et très précisément à son seppuku en novembre 1970.
Alors, il voulait par là témoigner des limites et même des impasses de ce nihilisme, et en même temps faire appel à une conscience japonaise qui remontait très loin dans la tradition.
Oui, il a repris l'idée de Nietzsche. Nous vivons dans une civilisation qui est menacée par le nihilisme, c'est-à-dire par l'absence de toute valeur, par le fait que rien n'a plus aucune valeur. Bon, il faut combattre le nihilisme. Et l'idée de Mishima a été de combattre le nihilisme par l'affirmation du sacrifice. On ne peut se délivrer du nihilisme que si on retrouve le sacrifice, le sens profond, fondamental que peut avoir, que doit avoir le sacrifice dans toute civilisation humaine. Et il ne s'agit pas seulement de chanter les louanges du sacrifice, il ne s'agit pas de parler de la beauté du sacrifice, il s'agit pour Mishima très précisément d'opérer un sacrifice et de parler par l'exemple, de parler en agissant. Donc, peu à peu, à partir de 1960 et dans les 10 années qui vont suivre, ce thème du sacrifice devient de plus en plus obsédant dans la pensée de Mishima Et c'est la forme que prend sa décision nietzschéenne de lutter à bras-le-corps contre le nihilisme. Et c'est ça qui l'a conduit à son sacrifice. Ça a donc été toutes sortes de choses. Ce suicide de Mishima, c'est quelque chose de prodigieux parce que c'est construit comme une œuvre complexe avec des déterminations qui s'empilent, qui se chevauchent, qui interfèrent les unes avec les autres. Il y a en particulier une réflexion philosophique sur le nihilisme, la décision de dépasser le nihilisme par l'exemple du sacrifice personnel. Et puis, il y a justement, comme vous disiez, il y a la recherche d'une solution au problème nihiliste dans la tradition nationale japonaise, dans la japonité, dans l'histoire du Japon. C'est en se branchant sur le passé japonais que Mishima a essayé d'échapper au poids du nihilisme.
Alors, dans l'après-Mishima, dans notre première rencontre, vous avez défini, au début de la civilisation japonaise, une communauté où l'amour de la vie était très vif. Alors, qu'en est-il dans le Japon d'aujourd'hui de l'amour originel de la vie?
Et oui, alors là, justement, à propos de ça, je crois qu'il faut méditer sur le cas de Mishima. Ce que Mishima a apporté, au fond, c'est une sorte de psychodrame qui a profondément ému le Japon et qui a été une espèce de répétition abrégée de la catastrophe impérialiste. Et cet acte de Mishima a eu finalement, à mon avis, l'effet d'une espèce de catharsis. Ça a été une sorte de représentation très marquée de théâtralité, réelle aussi, parce que la mort de Mishima a été une chose bien réelle, c'est-à-dire irréparable, irréversible. Il y a donc eu une espèce de tragédie réelle, mais qui a joué, pour la conscience japonaise, le rôle d'une catharsis, c'est-à-dire en somme d'une purification. Je crois que le Japon ne cherchera pas la solution de ses difficultés dans les solutions que Mishima a proposées. Je crois que Mishima s'est offert en victime, en quelque sorte, mais peut-être est-ce qu'il a permis, en répétant d'une façon ultra tragique la problématique que le Japon avait vécue jusqu'à 1945, peut-être a-t-il permis la recherche d'une possibilité allant vers des formes d'amour de la vie, vers des formes de non-violence, vers des formes de paix, au-delà des solutions qu'il avait lui-même proposées. Et ce serait, en somme, la valeur cathartique de son acte.
Et c'est le don que peut nous faire aujourd'hui le Japon.
Je crois, en effet, je crois qu'il y a beaucoup à attendre de ce pays, oui.
C'était L'exigence nihiliste, le cinquième et dernier épisode de la série La tradition japonaise et la mort volontaire, avec Maurice Pinguet au micro de Claude Métra pour Les chemins de la connaissance. Première diffusion le 30 novembre 1984 sur France Culture.